Bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes à l'écoute de l'émission « Faites passer vos idées » sur Radio Escapade.
Nous vous proposons cette émission avec Max.
Bonjour tout le monde.
Mélanie.
Bonjour tout le monde.
Lydia.
Bonjour tout le monde. Jean-Michel.
Bonjour tout le monde.
Et Jean-Pierre.
Et bonjour.
Au sommaire aujourd'hui,
nous commencerons avec Jean-Michel qui nous emmènera dans l'univers d'un groupe rock alternatif.
Max et Mélanie nous proposeront un micro-trottoir.
Jean-Pierre nous entraînera dans la Gaule romanisée.
Lydia nous parlera des mots perdus de la littérature.
Partons à la découverte d'un groupe de rock avec Jean-Michel. À toi Jean-Michel.
Salut les louloutes, ainsi qu'à tout le monde, ça va ou quoi?
Ouais,
j'ai entendu.
Ouais,
aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'un des plus grands groupes de rock français progressif. Non, ce n'est pas Téléphone, ni Star Shooter, ni Bijou, ni Triangle, ni Dionysos, ni Louise Attack, ni Graoul Petite. Il s'agit de Ange, The Group, The Rock français emblématique. Ange est un groupe de rock français progressif originaire de Belfort, d'Héricourt, de Vesoul, en Franche-Comté. Il est formé à la fin des années 1969 par Christian Descamps et Jean-Michel Brézovard. Le frère Francis, le frère de Christian, les rejoint vite. Au début, la musique du groupe s'inspire de textes médiévaux, fantastiques, intégrés à du rock progressif. Après de nombreux changements de musiciens et le retrait de Francis Descamps, le groupe tourne encore, conduit par Christian, le padré, et son fils Tristan, avec de multiples déclinaisons de rock progressif français, offrant un univers étendu, quoique éloigné de l'inspiration et du son originel. Le groupe, tout au long de son existence, a reçu 6 disques d'or et a vendu plus de 6 millions d'albums. Et c'est pas fini, ça continue. Dans ses premières années, les membres du groupe sont Jean-Michel Brézovard à la guitare, Francis Descamps au synthétiseur et à la voix, Gérard Gels à la batterie, Daniel Haas à la basse et à la guitare acoustique, et bien sûr, Christian Descamps au chant, à la guitare et au synthétiseur. Nous fêtons depuis janvier 2020 les 50 ans de carrière de ce groupe mythique. Aussi, faut-il célébrer encore cet événement exceptionnel, d'autant que le 11 février 2024, ils seront de retour en concert au Rockstore à Montpellier à 18h pour le Cunégonde Tour. Bien sûr, la discographie de Ange s'imposait. Nous allons humblement remonter le temps et prendre un extrait de chaque album studio depuis la création du groupe. Nous commencerons avec l'extrait Biafra 80, un instrumental pur jus des années 70 psychédélique, tiré du premier album Caricature. Puis, vers la fin de l'émission, nous écouterons un extrait du Cimetière des Arlequins, tiré du second album éponyme Le Cimetière des Arlequins.
Thank you.
Voilà, on vient d'écouter Biafra 80, un instrumental tiré du premier album de Ange, Caricature, de 1972. Max et Mélanie interrogent le monde. À vous deux.
Ah ben, re-salut tout le monde. Je vais faire une courte présentation des interviews et micro-trottoirs qu'on diffusera à chaque émission. Alors avec Mélanie, qui fait les interviews avec moi, comme tant d'autres, on se demande comment faire pour au moins participer à changer un système mondial qui court à sa perte. Par exemple, si on admet que l'écologie est prioritaire pour survivre, il faut alors changer le modèle agricole actuel qui est destructeur et qui ne profite qu'à l'industrie agrochimique. À travers le monde, de nombreuses personnes proposent des projets agricoles plus respectueux de la nature, plus humains, plus viables sur le long terme. Mais voilà, le système ne change pas. Pourquoi ? À cause de lois qui favorisent l'agriculture intensive et interdisent ou freinent d'autres initiatives. En France, par exemple, de nombreuses communautés ou personnes tentent l'aventure, mais leur projet d'investir les campagnes peut être bloqué par une loi qui interdit d'avoir un logement précaire sur une terre agricole, comme les yourtes, par exemple. Ces gens se retrouvent donc dépendants de la tolérance de communes ou de gros propriétaires qui laissent parfois leur projet se développer, mais l'interdiction reste et ils sont donc sous pression constante de se faire virer des terres qu'ils auront parfois travaillé pendant des années. Pour changer ça, il faut déjà exposer le problème, donc on peut peut-être faire quelque chose avec nos interviews, pour changer les lois qui profitent au système mondialiste qui détruit tout, il faut commencer par faire valser des idées. Allons les chercher dans la rue, dans nos villes, nos campagnes, dans le cœur de ceux qui rêvent d'un monde meilleur.
Pour ma part, je suis plus dans l'optique de simplement, avec ce que nous sommes, échanger nos idées, créer. Je ne sais pas si cela doit obligatoirement passer par changer les lois. Je suis plutôt de ceux qui pensent que pour changer le monde, allons regarder plus près celui qui nous constitue. Et si la plus simple des actions pouvait tout bouleverser, un peu comme l'effet papillon ?
Ouais, t'as ta vie de prisonnier quand tu t'es évadé, tu vas te faire griller.
Ah ouais, c'est vrai, bien vu.
Mais moi, je suis prisonnier du capitalisme.
Ah merde.
Ouais, je vis dans un monde qui va vers sa perte et en ce moment là, c'est peut-être un des derniers jours. C'est bon, ça défile. On est à la fin du monde. Je suis en train de t'interviewer.
Ah ouais, tu m'interviewes.
Ouais, mais c'est pas du direct, hein. On pourra couper si tu me dis que ça te plaît pas et tout. Si on dit des conneries, si on parle de cul, de je sais pas quoi, tu vois, et si ça pose un problème, pas de problème. On arrange tout au montage.
D'accord.
Viens Mélanie, viens. Je suis avec Mélanie en fait pour interviewer. Bonjour Mélanie.
Bonjour Max, bonjour.
Florent.
Voilà, on interviewe Florent qui vend des truites sur le marché de Ganges à 37 euros le kilo.
La truite fumée, la truite normale est moins chère.
Et bio et tout. Et
c'est non, des... pas bio, mais, ah. Mais et tout.
Et toi, comment tu participes à la fin du monde alors ?
Eh ben, je vais au marché avec mon camion et j'achète du granulé pour nourrir mes truites.
Ah, des granulés ouais. Faits en usine
C'est granulé, c'est le truc le plus stupide que je connaisse. Pour faire un kilo de granulé, qui va me permettre de fabriquer un kilo de truites, ils vont pêcher 5 kilos de poissons dans la mer.
Ah ouais,
avec ça, ils vont rajouter des céréales et des huiles.
C'est très con.
Ouais, c'est très con. Surtout que les quotas de pêche pour la pisciculture, c'est des quotas spécifiques, donc ils pêchent du poisson, dont des poissons à forte valeur commerciale qu'ils pourraient vendre pour manger, mais ils passent quand même en granulat à truite, alors que les pêcheurs qui pêchent du poisson pour manger, eux ils jettent plein de poissons parce qu'ils sont pas commercialisables. Donc ouais, complet.
L'absurdité du monde capitaliste, encore
c'est
une
ça,
fois.
C'est ça, à fond.
Voilà. Et t'es coincé dedans en fait, tu aimerais faire autrement
Je suis absolument interdit de donner autre chose à manger à mes poissons.
Ah, t'as pas le droit si tu veux aller chercher, choper tes mouches, tes asticots et
c'est interdit.
C'est interdit.
Non, il faut...
Et si la truite,
elle
attrape quand même un petit verre par mégarde.
Ça nous échappe, ça passe.
D'accord.
Ça passe. Il peut y avoir des truites rebelles.
Ah, la truite rebelle est acceptée dans le monde.
Qui mange des trucs elle-même.
Et toi, en fait, du coup. Dans ta vie, qu'est-ce que tu pourrais faire, toi, pour contre cette fin du monde ? Comment tu fais, toi, dans ta vie au quotidien, du coup, pour...
J'espère que quand ça pètera, on sera épargné. J'avoue, pas plus.
Pas plus.
Ah ouais.
Après, activement, pour éviter la fin du monde.
Oui, dans ton quotidien, activement.
Non, bah,
c'est intéressant, moi, je trouve, parce que...
Moi, je fais mon jardin, je mange mes légumes,
okay,
tout ça,
voilà, okay,
mais ça concerne que moi, ça concerne
oui,
pas le monde.
C'est...
Voilà, ça change pas le monde.
Oui, mais c'est toi, dans ton quotidien, voilà. Et
après, ça peut montrer un exemple. Voilà. Mais bon, j'ai quand même une bagnole, puisque bah, pour faire, j'habite isolé dans la montagne. Donc,
c'est un peu prétentieux, je trouve, hein, de vouloir montrer l'exemple de comment on peut faire pour sauver.
Ouais, mais c'est Gandhi qui a dit
alors
ça.
Alors qu'on donne des granulés
oui,
qui sont. Ouais.
Enfin, voilà. C'est Gandhi qui a dit ça, c'est vrai.
Ouais.
C'est
ah, Gandhi. Citation de Gandhi. Oh, ça va faire bien.
Pour changer le monde,
là,
il,
les
pour
les
changer le monde, il a dit pour changer le monde, culture. Change ta vie et montre
oui.
l'exemple.
Ah, ok, ok. Ouais. Quel
alors,
grand
moi, je fais autant que je peux. Après,
mais quand même, il y avait un espèce de sous-entendu comme quoi tu veux rester alors qu'il y a la fin du monde, ça sous-entend, je vais voir les autres crever, souffrir, et ça va me
faire. Ouais, j'ai toujours rêvé que les extraterrestres, ils vont exterminer l'espèce humaine, mais moi, ils vont me garder parce que je suis gentil.
Ouais, mais voilà, ouais. Parce qu'on est gentil, on mérite un peu de récompense, tu vois, ouais. Merde, quoi, et les autres, on veut les voir souffrir un petit peu.
Ouais, mais ça marche pas comme ça. Hein. Là, non. Ça marche pas comme ça. Si t'es pété de thunes, tu peux faire plein de trucs que tu peux pas faire.
Il y a l'enfer pour ça, hein. C'est prévu pour ça.
Oui, heureusement, il y a les chrétiens.
Ouais, ouais.
Heureusement. Heureusement. Même la réincarnation, ils se réincarneront en caillou.
Voilà, et ouais. Être un caillou.
Heureusement, il y a les religions pour nous sauver. C'est la fin fou. Du monde. Sinon, on est foutus.
Ouais, on remercie Dieu tous les trois. On fait un petit amen. Un, ah. Deux, trois.
Amen. Amen quoi?
Moi je sais pas.
Amen l'apéro?
Amen quelque chose quoi.
Amen la truite, ça peut être sympa.
Bon, merci beaucoup,
merci.
C'était sympa.
Avec plaisir, je suis ravi de fin du monté avec vous.
Voilà. Et puis ben, on tiendra au courant de quand ça passe.
Tu vas passer ça sur quoi?
On ne pourra jamais sauver toute la planète.
Donc pour vous, ça passe quand même par un changement de conscience, on est d'accord?
Ah oui, c'est la conscience, ouais. Mais je sais que la conscience, si il suffit d'une graine
qu'on
balance. En une journée, on pourrait changer le
bien
monde.
Bien sûr.
Moi, je l'ai déjà vécu, c'était un moment un peu spécial, mais j'ai vu qu'il suffit que toi-même, tu as changé. Tu vois tout le monde comment il change en une journée. Moi, tous mes problèmes, ma vie, je les ai réglés en une journée. Mais j'ai plus cette force. Elle m'a été donnée un petit moment pour voir,
pour constater, voilà, maintenant pour essayer.
Voilà, pour essayer, maintenant je sais que ça existe. Et je me dis ça en extrapolant à l'échelle du monde, tu dis en une journée, tu peux répandre ça comme une onde qui touche tous les êtres humains.
Mais un sourire, ça peut changer la vie de quelqu'un.
Voilà. Hein. Bah oui,
quelqu'un qui rentre triste chez lui avec des idées noires, il reçoit un sourire de plus et peut-être qu'il va pas faire de conneries. Quoi.
Voilà, on devrait acheter ces légumes avec un sourire. Attends, je vais acheter un kilo de trucs
avec un sourire.
Ma religion, c'est là-haut, dans la montagne. Je me pose sur une pierre, je prends la place d'un aigle. Regarde, je dis tout qu'on fait. Ce qui se passe en dessous, c'est tout petit. Ça relativise, parce que des fois, c'est vrai, hein, moi, je suis assez joyeux dans l'ensemble, mais il y en a beaucoup de joie, mais toi, t'as toujours la patate. Mais je suis comme tout le monde. À des moments, quand j'ai pas la paix, je reste chez moi, parce que j'ai pas envie de balancer. Quand... Parce que moi, c'est des trucs. C'est rarement pour moi, je suis stressé. Moi, je suis stressé, c'est quand je vois l'état du monde. Et comment on réagit, quoi. Enfin, comment on réagit pas, surtout.
Comment on réagit pas, surtout.
Le fait de pas réagir, d'accepter tout. On voit la politique de maintenant, mais c'est
violent. Bah, moi, je trouve que les gens réagissent, mais ils ont pas le pouvoir, pour autant, de vraiment changer les choses. Il y a beaucoup. On retrouve chez les gens, ce qu'on retrouve, c'est ce rapport à la nature, quand même. Il y a une espèce de conscience de ça, que comme quoi il y a un problème écologique qui va venir à un moment ou à un autre, qu'on le veuille ou pas, et le besoin de plus d'humanité, quoi. Il faut que ça change, quoi.
Là, on aura plus le choix. On dit la planète, elle est en train de.
Les gens ont conscience et essayent de faire
quelque chose. Et tu les vois, je sais pas, chaque fois que je vois un appareil qui sort dans le commerce, c'est toujours l'obsolescence programmée, on n'a pas arrêté avec ça.
Alors oui, mais ça, c'est un système qui.
On va te taxer.
Les gens ne sont pas forcément responsables du système, même s'ils y participent un petit peu, parce qu'ils doivent survivre. Enfin.
Ben non, mais il faut savoir, il y a des moments où il faut savoir se prendre en charge. Moi, quand je suis pas d'accord avec quelque chose, je veux dire, je le fais pas. Et j'ai pas peur de prendre des risques.
Il y a des choix à faire.
La majorité, il y a des gens, les gens, ils prennent pas.
Et à côté de ça, on accuse ceux qui défendent la planète d'être des éco-terroristes.
Ah oui, non, mais éco-terroristes, de toute façon.
C'est des méchants.
Voilà. Pas tous les vrais gens, de toute façon, ils sont soit derrière des barreaux, soit dans des hôpitaux. Ou alors font comme Bruno, c'est moi, avec son vélo. J'essaye de me démerder tout seul. Et du coup, on ne me prend pas au sérieux. Parce qu'il y a ça aussi. C'est comme tous les gens.
Ah bah non, mais les gentils, c'est des abrutis. Hein. Tout le monde le sait maintenant. Mmh. On est dans la loi du plus fort. Donc, c'est le capitalisme qui veut ça. Donc les gentils, c'est des faibles et des abrutis. Voilà. C'est un peu dommage quand même. Mais on va changer tout ça.
Ouais. Bon, on va y arriver.
Ouais.
Voilà. Votre prénom, c'était en Pascal.
Pascal.
Moi, j'ai foutu, j'ai pas le même truc. Comme il disait Bruno, c'est l'argent qui fait la loi déjà. Mais tout le monde est dedans. Hein, c'est la première secte du monde. Et tout le monde est dedans. Donc même moi. Hein, ça, il faut le dire aussi. Donc, et puis bon, je pense que. Ah, c'est là, on peut plus rien faire. Et ici en France, je pense que vous dénoncez la fin du monde. Il manque d'humanité et tout ça. Ça, c'est des trucs qu'on retrouve beaucoup en France, je trouve. Les gens, ils ont beaucoup d'argent. Ils ont des maisons et ils font toujours la gueule. Moi, je passe mes vacances en Grèce, sur mon île en Crète. des gens ont rien du tout, ils se baladent avec des petites trucs, ils ont le sourire jusque là, d'aller au Maroc, les gens sont comme ça. Alors pourquoi? Je vais vous expliquer, c'est très simple, parce que ces pays-là, ils ont tous des religions. En France, il n'y a plus de religion du tout.
Il n'y a plus de spiritualité.
Il n'y a plus de spiritualité, il n'y a plus de religion.
Il n'y a plus de
cœur. Donc, le fait de ne plus avoir de religion, je pense que c'est ça qui détruit tout. Tous ces pays-là qui sont là, les pays pauvres, ils ont une religion. Donc, il y a un peu plus de vanité parce qu'ils sont ensemble. Ils vont vers la même direction. Mmh. Voilà, je pense que c'est ça, c'est primordial. Voilà. C'est un peu con parce que moi, je suis contre les religions, je suis athée parce que je veux pas me prosterner devant des images, des machins. C'est pas mon truc. Mais j'aime bien, moi je suis ouvert à tout le monde et je respecte toutes les religions. J'ai des amis dans toutes les religions et puis voilà, c'est tout.
Ça reste une spiritualité quand même.
Voilà, quand même. Voilà. Mais je pense que ça vient là aussi parce que moi je vais dans des. On bouge un peu, on voit la différence et on voit les pays comment ils fonctionnent en fonction de leur religion. Ça, c'est. Je pense, hein. Moi c'est ce que j'ai remarqué. Hein. Parce qu'en France, il n'y a plus rien. Enfin, nous, on était catholiques, il n'y a plus de catholiques en France, il n'y a plus rien. La mixité, c'est bien. Pour la mixité, c'est sûr. Et on a détruit tout ce côté-là. Quoi. Il est sur d'autres pays, il y a des musulmans, j'en prête et des orthodoxes. Ah, les gens ils sont là, t'es dans les bus, les mecs, ils font ils passent devant les chapelles.
C'est ça.
Voilà.
C'est ça
pour faire des bons consommateurs, il faut pas de religion, il faut pas de culture.
Mais si t'es religieux, tu consommes moins. Si. Tu consommes plus de spiritualité, mais tu consommes moins dans la société, tu consommes moins.
Tu te nourris d'amour.
Pas d'amour peut-être, mais il n'y a pas que d'amour, de partage surtout. Parce que les gens, je reprends l'histoire de la crête, le mec qui fait son huile là-bas, il va échanger son huile contre de d'anneaux, de machin, et c'est des échanges, il va à l'échange. Donc voilà, mais je pense que les endroits un peu fermés. Et on retrouve ça beaucoup sur les îles. Au niveau des îles, on trouve beaucoup ce machin-là. Peut-être ce partage et tout ça, je trouve que c'est pas mal.
Merci beaucoup.
Pascal.
Merci Pascal.
Merci Pascal.
Allez.
Merci Mélanie, merci Max.
Jean-Pierre nous entraîne à présent dans le passé. À toi, Jean-Pierre.
Merci, Lydia. Alors, le début de l'histoire se situe au 3e siècle après Jésus-Christ, au moment de la paix romaine, la Pax Romana. C'était une période de paix qui a duré environ 2 siècles et qui fut propice au développement de la civilisation gallo-romaine, du commerce, des échanges, mais aussi à l'amélioration du réseau routier, puisque les routes de l'époque ont été empierrées. Alors, il y a eu aussi des petites incartades ici ou là, notamment des révoltes fiscales, car même à l'époque, on n'était pas très fan des impôts. Toutefois, ces révoltes furent rapidement montées par l'Empire. Alors, tout allait bien dans le meilleur des mondes. Rome assurait la paix sur tout l'Empire, qui allait du Rhin au Danube et jusqu'au pourtour méditerranéen. Donc, il s'agissait d'un vaste territoire. C'est au IIIe siècle, cependant, que la situation se dégrade un peu partout. L'économie de l'Italie est mauvaise. Les impôts prélevés par Rome ne suffisent plus à assurer le train de vie de l'Empire et le paiement des militaires, ce qui provoque des guerres civiles, le soulèvement des légions qui proclament leurs généraux comme empereurs dans l'espoir d'obtenir le paiement de leurs soldes. Bref, Rome prend l'eau de toutes parts, d'autant plus que les barbares en profitent pour pénétrer ou tenter de pénétrer au sein de l'Empire. Après une brève amélioration qui a duré quelques dizaines d'années, et des réformes de défense militaire et d'organisation, les choses se dégradent à nouveau et en 395, l'Empire sera divisé en deux. Il y aura l'Empire d'Occident à l'ouest et l'Empire d'Orient à l'est. Alors cet éclatement dont le but initial était de faciliter la défense encouragera en fait les grandes invasions de peuples comme les Vandales ou encore un peuple originaire d'Iran, les Alains. Ils en profiteront pour s'installer en Gaule en traversant le Rhin qui sera gelé en 406. Rome, évidemment, sera incapable de faire face à ces invasions multiples, mais obtiendra tout de même de tous ces peuples barbares la défense du territoire contre d'autres barbares en échange de terres et du libre choix de leur organisation. Et puis, en 451, les Huns, qui étaient dirigés par le terrible Attila, qui avait une réputation féroce, en profitent pour s'introduire à l'ouest et ravagent la Gaule belge en détruisant plusieurs villes sur leur passage, comme Metz ou Troyes par exemple. Attila s'arrêtera devant Lutèce dans l'optique de demander un tribut à ses habitants. C'est alors qu'une jeune chrétienne de 28 ans, Geneviève, qui sera faite sainte plus tard, convainc les habitants de Lutèce de résister et de ne pas payer. A priori, Lutèce a été évitée par Attila, qui repartira dans la région de Troyes pour se livrer à la bataille des Champs Cataloniques, une bataille qu'il perdra face à Aetius et à son armée composée de Romains et de Barbares. À ce moment-là, la Gaule n'est plus unitaire, mais elle est composée de clans barbares qui se partagent le territoire. Après cette défaite, Attila se repliera vers l'Italie, dont il ravagera le nord. Il mourra en 453, et là, vous allez me demander, mais qu'est-ce qui est donc arrivé à Aetius ? Eh bien, il s'est fait trucider en 454 au poignard par l'empereur Valentinien III, qui ne voulait pas d'un rival aussi puissant et coté. En 476, c'est le début du Moyen-Âge, mais c'est aussi et surtout la fin de l'Empire romain avec la défaite du dernier empereur. Et puis en 481, c'est l'arrivée de celui qui est considéré comme le premier roi de France, Clovis, qui à l'époque est un jeune garçon âgé de 16 ans et qui entreprendra la conquête de territoires dont il n'a pas encore le contrôle, alors que lui et ses hommes étaient établis en Belgique, en Champagne et en Picardie. En 486, c'est la bataille de Soissons avec le fameux vase d'argent. Au moment du partage du butin, Clovis réserve le vase que l'évêque de la ville lui a demandé. Mais un soldat qui lorgne sur le vase n'est pas content et le frappe de son épée. Plus tard, lorsque Clovis passe son armée en revue, il reconnaît le soldat et se venge en lui brisant le crâne avec sa francisque en lui disant « Ainsi as-tu fait au vase de Soissons !» Bref, 10 ans plus tard, en 496, il battra les Allemands en Tolbiac. C'est durant cette bataille, où son armée est en déroute, que la légende raconte qu'il promet de se convertir au christianisme s'il en sort vainqueur. Et miraculeusement, le sort de la bataille s'inverse et Clovis remporte la victoire. Clotilde, son épouse burgonde et chrétienne, lui rappellera d'ailleurs de tenir sa promesse, ce qu'il fera 2 ou 3 ans plus tard lors de son baptême. D'ailleurs, l'adoption de la foi chrétienne est aussi un signe politique, puisqu'elle lui permettra d'être plus facilement acceptée dans la Gaule romanisée de l'époque. En 500, il battra près de Dijon les Burgondes dirigés par l'oncle de son épouse Gondebaud, qui ne tuera pas, mais à qui il demandera juste de payer un tribut, puisque c'est l'oncle de Clotilde. Un peu de tenue, s'il vous plaît, on est en famille. Il s'alliera avec lui pour chasser les Visigoths de l'Aquitaine qui se replieront en Espagne en 507 après la bataille de Vouillé. Clovis mourra en 511 et il laissera 4 fils qui se partageront et étendront le territoire. En 558, Clotaire sera le seul roi franc survivant jusqu'à sa mort 3 ans plus tard. Et à partir de là, il n'y a plus d'unité puisque ses héritiers se livreront à des conflits meurtriers à des fins de conquête de territoire.
Clovis par-ci, Clovis par-là, tu parles, faut se le farcir le Clovis. Si on écoute ce texte, Clovis est la 8e merveille du monde. Je vais vous en parler, moi, du Clovis. Quand il rentre à la maison, vous verriez dans quel état il est. Il met du sang partout. Il laisse traîner des morceaux de burgonde ou d'alamand dans toute la maison. Et même pas fichu de mettre ses pantoufles. J'en ai marre. Qui c'est qui fait le ménage, à votre avis? C'est Bibi. Tenez, l'autre soir, alors que je l'attendais en préparant une ratatouille, le v'là qui arrive, je venais de passer le Swiffer partout, et lui, il balance ses affaires ensanglantées dans toute la maison. Et il chantonne en plus, le lundi au soleil. Clovis, qu'est-ce que c'est que ça? Je viens de cirer le parquet!
Oh, mais c'est rien, ma Clo-Clo! La maison est propre! Ouais, il y a un peu de sang, de terre et quelques morceaux d'ennemis par-ci, par-là qui traînent, mais que veux-tu? On peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Tiens, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on mange?
De la ratatouille, sauf que j'ai bien envie de te la renverser sur la tête. Je vais appeler les féministes, Clovis. Ça peut plus continuer comme ça. J'en ai ras les ovaires de passer derrière pour ramasser tes saletés.
Oh non, ma grasse et flasque Clo-Clo. Pas les féministes, hein? T'es encore fâchée à cause du vase tout cassé que je t'ai ramené? C'est l'intention qui compte, non, ma chérie? Écoute, on va demander à ton oncle Gondebaud, en plus de payer un tribut, il fera aussi le ménage. Il me doit bien ça.
Clovis, faut avouer, c'est un très bon négociateur. Je n'ai pas pu refuser sa proposition. Surtout que j'ai eu l'autorisation d'utiliser un air de bœuf contre mon oncle si celui-ci faisait un travail de cochon. Et là, Clovis et moi, on a tout sali avant son arrivée.
Il est tard, pèlerin. Il est grand temps de partir. Rangez vos nénuphars. Vous n'avez plus le temps de lire. Crapauds de goudron, alligators et mannequins de cire. Harlequin ! Agenouillez-vous, bonnes gens, le grand prêtre va passer. Branlez vos chapelets excrémenteux et dilapidez. Comme l'aigle impérial, son goupillon va vous déchirer. Harlequin ! Levez-vous, beau monde ! Cette nuit, la lune a quartier libre. Pincez votre peau afin que nulle cellule ne vibre. Retenez votre souffle. Comprimez vos poumons de fibres. Harlequin !
Château pèlerin, il est grand temps de partir. Rangez vos nénuphars, vous n'avez plus le temps de lire. Crapaud de goudron, alligator et mannequin de cire, harlequin. Agenouillez-vous, bonne chance, le grand prêtre va passer. Prends les beaux chapelets excrémenteux et
pour nos rêves.
nous venons d'écouter Le cimetière des Arlequins, tiré du second album de Ange, Le cimetière des Arlequins de 1973. Nous faisons toujours falser vos idées sur Radio Escapade, 104.1 à Saint-Hippolyte-du-Fort, 102.0 à La Salle, 103.3 à Ganges et au Vigan, sur Internet et dans le monde entier, www.radioescapade.org. Et le voyage continue au présent avec Lydia et les mots perdus de la littérature. À toi Lydia.
Depuis la fabuleuse invention de Gutenberg, des millions de livres ont été imprimés, ce qui nous permet à nous, humains, êtres humains dotés d'un pouce préhenseur et d'une cervelle, de lire, analyser, réfléchir, déduire, comprendre et créer. Toutes les conditions sont réunies pour l'avènement d'une société plus ouverte, plus intelligente et de facto plus libre. Seulement voilà, il semble de plus en plus évident que ces capacités d'analyse nous soient déniées, nous, lecteurs lambda, et que certains groupes estiment qu'il faut nous prémunir contre certains mots pour nous éviter un mal de crâne qui nous obligerait à réfléchir. Ainsi, certains mots pensés, imaginés, voulus comme tels par l'auteur d'un livre, disparaissent de l'œuvre. Est-ce que les livres de Roald Dahl sont encore des livres de Roald Dahl, compte tenu du fait que l'on a carrément changé le texte dans pratiquement tous ses livres? Ainsi, les mots blancs et noirs ont été supprimés. Les personnages ne sont plus blancs de peur, par exemple. Tout comme le terme gros. Dans Charlie et la chocolaterie, une curieuse impression de danger, curieux se disant en anglais queer, a été changée en un étrange sens du danger. L'usage du mot polysème, qui a plusieurs sens, queer, pouvant également désigner des personnages LGBTQ+, a semblé stigmatisant associé au mot « danger ».« Something crazy is going to happen now ». Il va arriver un truc fou est devenu « something bizarre is going to happen now ». Il va arriver un truc bizarre, car « crazy », c'est-à-dire « fou », pourrait être mal interprété par des personnes concernées par des problèmes de santé mentale. Dans « James et la grosse pêche », tant de sponge était formidablement grasse et en plus incroyablement flasque, a été remplacé par tant de sponge était une vieille fripouille qui méritait que le fruit l'écrabouille. La liste est sans fin. Des centaines de modifications ont été apportées au texte de Roald Dahl au prétexte de préserver les jeunes lecteurs d'éventuels traumatismes. Ces nouvelles versions publiées par la maison d'édition Puffin ne sont pas des œuvres de Roald Dahl. Elles s'en inspirent seulement et elles les défigurent. Puffin et la Roald Dahl Story Company ont effectué ces changements en partenariat avec Inclusive Minds, un collectif qui se donne pour objectif de promouvoir l'inclusion et l'accessibilité dans la littérature jeunesse et qui, à ce titre, gomme une partie de l'œuvre d'un artiste comme on couvrait autrefois des nudités dans certains tableaux pour ne pas choquer. On considère qu'il ne faut pas laisser des enfants lire des contenus choquants. C'est d'une part faire preuve d'un grand mépris envers leur intelligence, car c'est considérer qu'ils sont incapables de faire de même la part des choses entre ce qui est moral et ce qui ne l'est pas. Et d'autre part, les priver de l'outil même qui leur permettra de construire leur esprit critique. Enfin, si l'on prend Charlie et la chocolaterie, ce livre a été publié en 1964, a fait le bonheur de milliers d'enfants à travers le monde sans modification. Donner à l'enfance de la bonne littérature rappelle désagréablement l'époque où l'on interdisait aux filles de lire des romans pour ne pas les pervertir ou leur donner de mauvaises idées. C'est la condamner à ne connaître qu'une facette du monde de la pensée, celle que l'ère du temps aura approuvée. Quel appauvrissement de l'esprit, quel redoutable clivage entre le camp du bien et celui des autres, ceux qui nomment le monde tel qu'il est et non tel qu'ils voudraient qu'il soit. En France, un porte-parole de Gallimard Jeunesse a précisé que cette réécriture ne concerne que la Grande-Bretagne. Nous n'avons jamais modifié les textes de Roald Dahl et à ce jour, ce n'est pas en projet. Toute cette idéologie du bien me fait furieusement penser à une autre œuvre littéraire dont je vais vous lire un extrait. Nous détruisons chaque jour des mots, des vingtaines de mots, des centaines de mots. Nous taillons le langage jusqu'à l'os. Ne voyez-vous pas que le véritable but d'une novlangue est de restreindre les limites de la pensée ? À la fin, nous rendrons littéralement impossible le crime par la pensée, car il n'y aura plus de mots pour l'exprimer. La révolution sera complète quand le langage sera parfait. George Orwell, 1984.
Merci Lydia. Nous allons à présent écouter un titre d'OSF, The Cure, composé par Maxime Leduc et chanté avec Alexandra Houdin.
Thank you.
Et pour finir, une petite devinette. Pourquoi trinque-t-on, les amis ?
Pour porter bonheur.
Pour porter bonheur.
Parce qu'on a soif.
Bien sûr.
Pour savoir si l'autre a craché dans notre verre.
Ok. Pour savoir si les verres sont solides.
Ah oui, j'y avais pensé. Mais à l'époque, les verres étaient en bois, non ? Ou en fer ?
En étain,
d'accord. Par contre, moi, je sais, c'est pour chin-chin. Il ne faut pas le dire aux Japonais, parce qu'en japonais, ça veut dire pénis. Bon, voilà, c'était tout. Donc, c'est un peu dérangeant. Pénis.
Et santé, en japonais, pas ça veut dire quoi ?
Donc, voilà. Et non, mais la réponse se rapproche de ce que Mélanie a dit. Ce n'est pas pour le crachat.
Ok.
C'était pour éviter qu'on s'empoisonne. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'est vers le Moyen-Âge, les verres s'entrechoquaient fortement pour qu'on soit sûr que du liquide passe d'un verre à l'autre. Comme ça, s'il y avait du poison, bah, tout le monde mourrait. Et c'est aussi pour ça qu'on se regarde dans les yeux pendant qu'on trinque. C'est aussi pour voir si l'autre, il a un regard bizarre et tout, et s'il vous regarde bien dans les yeux. Voilà, c'était
okay, merci.
La petite histoire.
Merci beaucoup. C'était Faites valser vos idées avec Max, Mélanie, Lydia, Jean-Pierre et Jean-Michel. Merci à Antoine et Lana à la réalisation. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Au revoir, à la prochaine.